Salut tout le monde, ici Jérémy Filosa. Merci d'être en notre compagnie pour les amateurs de sport week-end. Un beau programme chargé de 2 heures. On va parler bien sûr de tout ce qui se passe dans le monde du sport, tout ce qui nous intéresse dans le monde du sport. Écoute, je pense qu'il reste encore quelques journées de froid. Aujourd'hui, demain, ensuite de ça, tranquillement, pas vite, je crois qu'on s'en va vers des chaleurs un peu plus clémentes, une météo un peu plus clémente. D'ailleurs, on va parler vers 13h30 au directeur des petites ligues de baseball au Canada, Jean-François Julien, qui va nous parler des inscriptions pour les jeunes qui vont commencer sous peu, hein, pour la nouvelle saison de baseball qui s'en vient pour nos jeunes, bien sûr, en espérant, on se croise les doigts, qu'ils puissent jouer, comme ça a été le cas l'année dernière. L'année dernière, on a eu une saison qui a commencé en retard, mais en espérant que cette année, on puisse avoir une saison normale. On va beaucoup parler de boxe aujourd'hui, parce qu'on va revenir bien sûr sur la performance de Marie-Ève Dicker hier soir. D'ailleurs, on va parler à Marie-Ève vers midi 20. C'est justement elle qui va nous dresser le portrait de ce qui s'est passé hier soir là-bas à Flint, au Michigan. Ça n'a pas été facile contre Clarice Shields. J'ai regardé le combat du début à la fin. D'ailleurs, si vous m'avez suivi sur Twitter hier soir, je vous ai donné des mises à jour là, round par round. Ça n'a pas été un combat facile. Malheureusement, elle n'a pas remporté de round. Là, elle a perdu les 10 rounds aux yeux des 3 juges. Donc, sa ceinture de championnat du monde IBF est restée au Michigan, malheureusement. Donc, elle revient sans ceinture, mais tout n'est pas perdu pour Marie-Ève Dicker, puisque, comme on va vous l'expliquer tout à l'heure, là, il y a encore des possibilités pour elle de redevenir peut-être championne, même en 2021. On va aussi en discuter avec Yvon Michel à partir de 13h20. Mais il faut parler tout d'abord du Canadien. On aura aussi la chance de parler un petit peu du CF Montréal vers midi 50 approximativement. Mais à tout seigneur, tout honneur, débutons avec le Canadien et Maxime Lapierre, qui est notre premier invité avec qui on va discuter de hockey du Canadien, mais aussi d'un petit cheap shot qu'on a eu dans la Ligue nationale hier soir. Salut Max, comment ça va?
Ça va bien toi, Jérémy?
Ça va très bien, merci. Max, dernier match pour le Canadien ce soir avant un long voyage dans l'Ouest, là, un voyage de 6 matchs. Le Canadien qui avait très bien fait en début de saison dans son premier match dans l'Ouest. Là, on aura la chance de reparler de ça un peu plus tard. On n'a pas tous les détails pour le match de ce soir, Max. Il semble que Josh Anderson va être apte à revenir au jeu, mais on dit que ça va être ce qu'on appelle dans le monde du sport un game time decision. Là, on va décider quelques minutes avant le début du match, mais commençons avec ce que tu as vu cette semaine. Là, on reviendra avec toute la saga des gardiens de but et tout ça, mais sens-tu qu'il y a au moins une petite progression dans le jeu du Canadien depuis que Dominique Ducharme a pris le contrôle de l'équipe?
100%, moi je dirais même une grosse progression.
Ah oui, hein?
Je trouve que l'équipe s'en va dans la bonne direction. On est encore on essaie de peaufiner des petits détails là, tu vois l'exécution parfois, les passes sont pas sa palette, puis le timing est peut-être pas encore là parce que tu sais c'est tout nouveau, hein. On a changé plusieurs choses. J'ai remarqué qu'on protège beaucoup les défenseurs ne mettent plus de pression en zone offensive comme on en avait discuté. Les attaquants ils attaquent avec beaucoup plus de vitesse, sont beaucoup plus créatifs. Je prends comme exemple Jonathan Drouin,
oui,
qui semble libre dans sa tête, qui semble patiner comme on le voyait dans le temps, dans le junior, tu vois qu'il essaie des jeux. Il a pas peur de prendre des risques. On voit les jeunes comme Romanov qui patinent, qui sont revenus un petit peu plus comme l'image qu'on donnait là, en début de saison, les premiers matchs. Puis je trouve que les défenseurs appuient beaucoup l'attaque, mais on est encore au stage où on est entre deux systèmes. Mm-hmm. Je pense qu'on est à 2-3 matchs d'avoir une équipe qui joue très bien. Puis si on compare ça en début de saison, tu sais, on gagnait des matchs 5-4, 6-5, puis on avait des matchs contre Vancouver. On gagnait les 2 points, mais on le savait qu'on s'en allait pas nécessairement dans la bonne direction si on continuait comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'était certain que les équipes allaient s'ajuster côté systématique puis allaient être capables de fermer le jeu aux Canadiens. Mais là, c'est l'inverse. Là, on gagne pas les matchs, mais on peut se dire, sans penser trop, que si on continue de jouer de cette façon-là, on va gagner beaucoup plus de matchs de hockey qu'on va en perdre. Puis c'est une bonne nouvelle pour le Canadien.
Ben écoute, au moins en avantage numérique, ça commence à avoir un petit peu plus d'allure. Là, on voit le Canadien être capable au moins de rentrer avec vitesse en zone adverse, contrôler la rondelle. Aussi, la discipline, tranquillement, pas vite, on dirait que c'est de mieux en mieux. Il y a moins de pénalités, disons, inutiles. Mais parlons un petit peu, par exemple, des tirs au filet. Parce que présentement, il y a beaucoup de discussions. Parce qu'on se dit, écoute, le Canadien tire beaucoup plus que ses adversaires, donne moins de tirs aussi. Mais plusieurs disent, oui, c'est vrai, mais les chances de marquer sont pas nécessairement au rendez-vous et tout ça. Les statistiques avancées démontrent que, oui, le Canadien tire beaucoup, mais les chances de marquer, il n'y en a pas encore suffisamment pour s'assurer de concrétiser soir après soir et aller chercher le nombre de buts nécessaires pour gagner avec régularité, là.
Je suis d'accord avec ça, mais pour revenir encore une fois, quand je dis qu'on tente deux systèmes, ben c'est exactement ça. C'est que le premier pas dans la bonne direction, c'est de lancer plus offensivement puis de couper les lancers défensivement. Ça, c'est le premier step. Après ça, on s'en va où? Ben on veut rentrer dans le milieu de la glace. On va aller au filet, on va avoir du trafic puis tout ça. Puis ça, ça s'en vient. Tu sais, je pense que si on est capable de régler défensivement les petits... en anglais, on dit les breakdowns. Là. Tu peux pas juste arriver, jouer un match parfait puis à un moment donné faire une erreur majeure comme on a fait en prolongation au dernier match où on perd notre couverture et tout ça. C'est ça qu'il faut régler un petit peu parce que on le voit souvent, le Canadien joue un bon match, puis à un moment donné, on voit un gars arriver tout seul dans l'enclave, un gros but, puis ça change complètement le momentum. Ouais. C'est à ça qu'il va falloir faire attention. Puis ça, c'est une question de concentration. C'est pas une question d'effort ou c'est pas une question de système. C'est vraiment d'être concentré 60 minutes.
Ben, comme la passe de Toffoli sur le premier but, là, en plein dans l'enclave, et puis ça coûte un but. Mais parlons-en de la prolongation, parce que ça semble être un mystère pour tout le monde. Le 3 contre 3, ça ne fonctionne pas du tout. Au moins, dans le dernier match, le Canadien a eu quelques chances de marquer. Paul Byron, à un moment donné, est passé tout près de mettre le clou dans le cercueil de l'adversaire. Mais ça demeure que c'est 0 en 6. T'sais, normalement, une équipe moyenne là, va gagner la moitié du temps, perdre la moitié du temps. T'sais, si le Canadien avait ramassé moindrement 3 points sur une possibilité de 6, il serait quand même mieux installé au classement au moment où on se parle. Mais on a beaucoup critiqué Dominique Ducharme pour, par exemple, l'utilisation d'Armia en prolongation. D'ailleurs, c'est lui qui fonce dans Petrie là, sur le but du bois et tout ça. Moi, j'ai aimé Byron. On ne l'a pas vu beaucoup en prolongation depuis le début de l'année. Mais là, dans le dernier match, j'ai trouvé qu'il a amené quelque chose. Armia, je l'aime un peu moins. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben écoute, c'est sûr que d'un côté, il va falloir changer puis peut-être juste mettre nos gars de talent pur. T'sais, moi, je pense à une combinaison Drouin, Suzuki, Toffoli, par exemple, ou un Byron, Anderson en santé, puis Petrie. Après ça, la troisième paire, moi, ça serait un Gallagher, Tatar, Romanov. T'sais, ça serait ça mes trios de ce côté-là. Mais t'sais, c'est simple. Arrêtons de chercher le secret pourquoi qu'on perd en prolongation. Je pense que le Canadien a vraiment une bonne équipe en unité de 5 quand ils jouent comme ils l'ont fait en début de saison. Je pense qu'on a construit l'équipe pour ça, une équipe à 4 trios, 3 paires de défenseurs, 2 bons gardiens de but. Mais si tu regardes à 3 contre 3, là, c'est le talent pur qui s'affiche.
Exact.
C'est les gars qui ont la vitesse, c'est les gars qui sont des super vedettes. Puis, je suis désolé d'annoncer ça, mais on n'a pas ces joueurs-là à Montréal à 3 contre 3. Tu sais, si t'arrives sur la patinoire contre un Matthews, un Marner, un Tavares, un Nylander, un Riley, on n'est pas proche, je m'excuse. Puis à Winnipeg, Connor, Scheifele, Wheeler, Dubois, Stastny, Ehlers, je m'excuse, mais on n'est pas là du tout. Donc, c'est sûr que c'est pas l'avantage du Canadien d'aller en prolongation. Je pense qu'on est capable de compétitionner avec eux si on commence à aller chercher nos gars de talent pur à nous, puis on y va pour la victoire, on y va pas pour pas perdre, là, tu sais, comme on l'a mentionné souvent dans les dernières semaines. Exact. Mettons nos compteurs de buts, puis on verra ce qui arrivera. C'est nos meilleurs joueurs à nous, donc mettons-les contre les meilleurs joueurs de l'autre côté, puis écoute, c'est peut-être un petit peu mental aussi en ce moment, là, on le sait qu'on a perdu les derniers matchs, puis aussitôt qu'il y a une chance de compter, on devient stressé un petit peu, mais si je regarde le match d'hier soir, là, de Chicago, qui est allé à 3 contre 3, c'est là qu'on voit que c'est pas le même style d'hockey du tout, c'est tout le talent qui parle, puis il y a des chances de marquer des deux côtés, donc on est peut-être aussi, on manque peut-être un petit peu de chance aussi.
En même temps, tu sais, je veux dire, le Canadien a quand même des éléments intéressants, tu sais, comme tu viens t'as parlé de Drouin, t'as parlé de Suzuki, tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, t'as comparé aux meilleurs de la Ligue, puis c'est sûr que dans notre division, on dirait qu'il y a plusieurs équipes qui sont bien nanties à ce niveau-là, mais tu sais, sont un peu mal pris, je trouve, parce que le meilleur gars pour gagner des face-offs, c'est Dano, mais c'est pas nécessairement le gars que tu veux sa glace à ce moment-là, fait que tu veux gagner le face-off, mais si tu perds le face-off, c'est comme tu te punis deux fois parce que t'as pas le puck pis t'as pas le bon gars sur la glace.
Non, c'est ça. C'est sûr que c'est difficile. Puis tu viens de le mentionner, j'ai oublié de parler de ça. C'est que la division cette année, elle avantage pas le Canadien non plus. Tu sais, j'ai même pas mentionné les Oilers avec McDavid pis Draisaitl. Peut-être que cette année, c'est un petit peu plus difficile de ce côté-là, mais moi, je me concentrerai pas sur la mise au jeu, là. Honnêtement, là, c'est sûr qu'il y aura une possession de rondelles, puis c'est pas certain qu'on va la perdre, là, parce que Suzuki est capable quand même de temps en temps d'en gagner des mises en jeu, là. Mais Le focus, je pense, c'est le talent. Il arrivera ce qui arrivera. Mettons nos meilleurs joueurs. Puis si on perd, on perd. Si on gagne, mais tant mieux. Mais on peut pas bâtir un système à 3 contre 3 sur une mise au jeu. Ça, non, j'ai de la misère avec ça.
Ben, non, mais c'est parce que, tu sais, Dominique Ducharme en avait parlé un peu la semaine dernière de ça. Tu sais, de l'importance de gagner la mise au jeu contre un club qui utilisait 3 attaquants sur la patinoire en prolongation. Mais en tout cas, peu importe. Bon, écoute, c'est sûr qu'un gars comme Jake Allen, il fait ce qu'il peut. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu une discussion avec des amis, où j'ai dit c'était peut-être le gars qui m'a le plus inspiré confiance dans le mois de février. Malheureusement, il n'a pas gagné une game au mois de février. Donc, il a bien fait, il a tenu son club dans le match à chaque fois, mais il n'a pas été capable d'inscrire la victoire. Écoute, je sais que tu en as parlé quand même pas mal cette semaine, mais je voulais quand même revenir sur le congédiement de Stephen Waite cette semaine, parce que ça fait énormément jaser, surtout de la façon que ça a été fait. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas le fait que Stephen Waite se fasse avertir après la deuxième. J'ai compris l'explication de Marc Bergevin. Il n'y a jamais un bon moment pour annoncer quelque chose de même. Mais j'ai été surpris de voir que, tu sais, quand tu fais ton ménage, quand tu fais ton congédies ton entraîneur-chef, son assistant, il me semble que les gars que dans ta tête, ils n'ont plus d'affaires là, tu t'en débarrasses tout en même temps. Est-ce que je me trompe?
Non, c'est vrai que c'était bizarre de ce côté-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais peut-être qu'aussi, on attendait l'opinion du nouvel entraîneur. Tu sais, savoir dans quelle direction on s'en va avec le reste du staff. C'est sûr que la grosse décision, c'était l'entraîneur-chef, Kirk Muller. C'est eux qui avaient, tu sais, je veux pas enlever rien aux autres entraîneurs, mais c'est eux qui ont le plus gros impact lors du système, lors des matchs et tout ça. Donc, on changeait le plus gros morceau en premier. Puis après, c'est sûr qu'il y a eu des discussions avec Dominique Ducharme, Alex Burrows, tout le monde dans l'organisation. Puis on se dit, ben, est-ce que Kerry est encore capable de répondre au message qu'on lui lance avec son entraîneur. Puis je pense qu'on est venu à la conclusion que non, puis il fallait changer quelque chose. Puis écoute, comme tu l'as mentionné, là, ça c'est une situation difficile. Tu sais, on oublie souvent le côté humain dans le monde du sport. Puis pour Marc Bergevin, c'est sûr et certain, là, moi je me l'imagine dans son bureau, marchant en rond, puis dire bon, quand est-ce que je vais dire, puis c'est dur, puis c'est un chum. Puis à un moment donné, ben, tu prends ta gorgée de café, puis tu te dis bon, mais ok, c'est là, je suis plus capable d'avoir ça dans la tête, je m'en vais dire. Puis c'est arrivé comme ça, c'était après la deuxième période, c'est aussi simple que ça.
Mais écoute, moi j'ai pas vraiment apprécié le point de presse de Carey Price. Te le dire. J'aurais aimé ça qu'il prenne un petit peu plus de responsabilité sur ses épaules. Ceci dit, Marc Bergevin dit « J'ai pas posé la question à Carey Price. » Je suis sûr qu'il y a eu quand même des discussions entre les deux hommes. Mais quand la question a été posée à Carey Price, à savoir pourquoi ça marchait plus entre lui et Stephen Waite, tu sais, il a pas dit « Ben, c'est pas que ça marchait plus. Tu sais, j'ai de la responsabilité là-dedans. » Il a juste dit à un moment donné « Le message, il passe plus puis t'as besoin d'un nouveau. » Fait que pour moi, c'est clair que Carey Price était d'accord avec cette décision-là. Mais qu'est-ce que tu as pensé globalement du point de presse de Carey Price?
Ben écoute, je vais dire ma version. Là. Moi, je pense que premièrement, Carey Price, on le sait, là, en ce moment, c'est fragile, tout ce qui se passe en autour de lui. Donc, de l'extérieur, la meilleure chose qu'il peut faire pour moi en tant qu'ancien joueur, c'est d'en dire le moins possible. Parce que là, tu le sais, une phrase, un mot mal placé, là, ça peut mettre encore beaucoup plus de drame dans la saison et tout ça. Puis c'est pas nécessaire. Tu sais, là, d'une certaine façon, il se protège lui, mais il protège aussi l'organisation et ses coéquipiers. La deuxième chose, c'est que Carey Price, j'ai joué avec lui, puis c'est certain que lui, quand il parle à ses coéquipiers, pied, il le dit ouvertement que c'est pas lui qui est pas à son meilleur, puis qui est capable de faire mieux, puis je vais être là pour vous autres, les boys. C'est là que c'est important, c'est à l'intérieur du vestiaire. L'autre chose, c'est c'est sa personnalité. Il est comme ça quand il gagne. Carey Price, il gagnerait 10 matchs de suite par blanchissage, puis il aurait la même réaction en conférence de presse. Tu sais, ça fait longtemps qu'il est là. C'est pas le gars qui parle le plus, c'est pas le gars qui est intéressé le plus d'être là. Je pense qu'il y a un commentaire qui a été sorti, les gens ont un peu transformé, c'est qu'il a dit les gens qui pensent que je me fous de jouer puis de gagner, ben je m'en fous. Ben il parlait pas des fans là, il parlait des gens qui trouvent pas qu'ils s'expriment bien et tout ça. Les fans, Carey Price, ils les adorent, il fait beaucoup de choses pour eux. Tu sais, je pense entre autres à des événements comme le petit garçon, ses parents étaient morts ou whatever l'année passée, puis il donne une grosse caresse et tout ça. Tu sais, c'est ça que je veux voir. Moi, honnêtement, personnellement, qui arrive en avant là, puis qui dit c'est moi, c'est à cause de moi qu'on perd, puis je suis pas bon, ça change rien dans ma vie. Il le sait, puis on le sait. Donc pourquoi avoir besoin de le dire?
T'sais? Moi, la seule affaire que je dirais, Max, là, pour avoir été là à côté de lui à plusieurs reprises là, pour des points de presse là, pendant des années, t'sais, ça m'a pas l'air d'un gars qui vit le parfait bonheur à Montréal. Je pense qu'il trouve ça agressant, justement, de souvent devoir répondre à des questions, être sur le spotlight, puis tout ça. Là, il y a aussi son non-verbal sur la patinoire, sa nonchalance. Oui. T'sais, on dit que le gars, il le dit lui-même, c'est entre les deux oreilles que ça se passe. Mais quand tu vois ces deux autres affaires-là, moi, je pense à un gars comme Max Pacioretty, puis je le regarde aller avec les Golden Knights, puis ça m'a l'air d'un gars qui, entre les deux oreilles, est soulagé et libéré de jouer là-bas. Puis moi, j'ai comme l'impression, puis je veux dire, Carey Price partira pas demain, là, il y a une clause de non-échange, puis tout ça, clause de non-mouvement même. Mais moi, j'ai comme l'impression que si ce gars-là se retrouvait sous d'autres cieux où il n'y a pas à dealer avec tout ça, entre les deux oreilles, il serait plus fort, puis il redeviendrait probablement le gardien qu'on a déjà connu ici. Je sais pas ce que t'en penses.
Ben, je veux juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Par contre, c'est que moi, j'ai joué longtemps avec Carey Price. J'ai joué dans la ligne américaine aussi avec lui. Puis si je me rappelle des souvenirs, tu sais, on allait souper, mettons, 5-6 gars, là. Ouais. Il a le même langage corporel, là. Il est assis au bout de la table, il parle pas, il rit des blagues. Puis c'est pas le style de gars qui est bruyant, c'est sa personnalité vraiment, là. Ça a pas rapport avec la conférence de presse. Si tu l'invites chez toi pour prendre une bière, il est comme ça. Il va attendre, il écoute la discussion, il fait un petit sourire, puis c'est pas plus que ça. C'est vraiment sa personnalité. T'sais, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Okay. Ça n'a pas rapport avec le monde du sport. C'est aussi simple que ça.
Maxime, merci beaucoup. Je te souhaite un bon match ce soir, puis on se reparle très bientôt.
Parfait, bon week-end, bye-bye.
Salut, bye-bye, toi aussi. Maxime Lapierre qui nous analysait l'actualité chez le Canadien de Montréal présentement. Petite pause et on va aller la retrouver en direct de sa voiture puisqu'elle revient en direction de Montréal. Marie-Ève Dicker qui malheureusement s'est inclinée hier soir à Flint au Michigan.